presque juif. Un podcast d'Académ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder.
Aujourd'hui, nous sommes reçus par Gilles Anus.
Bonjour, donc je suis Gilles Anus, je suis essentiellement professeur de philosophie dans l'enseignement public depuis une trentaine d'années. Je dirige des cahiers d'études lévinassiennes, la revue de l'Institut d'études lévinassiennes.
Bonjour Gilles Anus.
Bonjour.
Alors vous êtes l'un des principaux disciples du philosophe Benny Lévy. Vous diffusez sa pensée en France, vous éditez son œuvre chez Verdier. Vous dirigez les cahiers d'études lévinassiennes. Et pourtant, vous n'êtes pas juif.
Eh bien non, en effet, je ne suis pas juif. Bien que je fasse tout ça qui a beaucoup à voir avec le judaïsme.
Alors comment est-ce que vous vous définissez ?
Alors, s'il faut définir, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais s'il faut définir, je me qualifierais de Ben Noar, de fils de Noé. C'est la notion talmudique qui désigne précisément l'humanité non-juive. Mais l'humanité non-juive, en tant que, du point de vue talmudique, elle est quand même concernée par la Torah, puisque on apprend dans le traité Sanhédrin que les fils de Noé, donc, sont... enjoint sur 7 mitzvot, voilà, et donc je me définirais comme ça, voilà, comme un Ben Noar. Maïmonide dit que en fait tous les hommes, tous, sont soumis théoriquement aux 7 mitzvot. Maintenant, ce qui distingue effectivement un Ben Noar d'un homme qui ne le sait pas, disons, on va dire ça comme ça, c'est qu'effectivement il a la conscience de cela et que la conscience qu'il a de cela l'amène nécessairement à étudier un certain nombre de textes et à ne pas les étudier de façon indépendante, mais à les étudier en rapport avec le peuple d'Israël, avec des juifs, donc, puisque c'est un des enseignements qu'on a sur le noarisme, c'est que, alors, bon, c'est Rambam qui dit ça dans le Mishneh Torah, c'est qu'il y a deux manières, disons, de se rapporter aux 7 mitzvot. Il y a une manière qui serait, la figure du sage, sage des nations du monde, donc celui qui par sa raison, par son entendement arriverait donc, je sais pas, une image qu'on pourrait donner en philosophie, c'est le penseur moral au sens de Kant, quelqu'un qui arriverait par sa propre raison, par sa rationalité à se dire voilà, effectivement, pas de meurtre, etc, etc, bon, les 7 mitzvot qu'on déroulera s'il faut, et celui-là c'est un sage des nations du monde. Mais il y a une autre manière, c'est celle qui m'importe à moi, et qui consiste à s'occuper, disons, pour ça, dire ça modestement, s'occuper des 7 mitzvot. Et donc celui qui s'occupe de ces mitzvot, en tant qu'elles ont été, alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut tout un truchement, mais en tant qu'elles ont été répétées au Sinaï, et que donc elles viennent pour le Ben Noar, pour l'homme, pour l'humain que je suis aujourd'hui, elles viennent par l'intermédiaire de Moshe, et pas naturellement, pas par son entendement.
C'est pas la loi morale naturelle.
C'est pas la loi morale, justement pas. Voilà, exactement. Celui-là, c'est un pieu des nations du monde, dit le Rambam.
Chassid ou Mota Olam.
Voilà, les chassidés ou Mota Olam, au pluriel, il le dit dans le Mishneh Torah. Et c'est ça exactement le Ger Toshav. c'est celui qui respecte les mitzvot. Donc la différence avec, puisque c'était la question, la différence avec les autres hommes ou les hommes, dans le, c'est qu'effectivement, celui qui se vit comme Ben Noir ou qui vit comme un Ben Noir, nécessairement a une relation à l'étude juive, que n'ont pas, bah, comme on sait, ça se saurait que n'a pas le reste de l'humanité. Je crois que c'est vraiment la dimension de l'étude qui fait la différence. Hein. Un certain nombre de textes, desquels on tire par une étude réitérée, potentiellement acharnée si on y arrive, en tout cas une étude profonde, la plus profonde possible, de laquelle on tire un certain nombre d'enseignements et de donner une certaine consistance, disons, à ce qui pourrait n'être qu'une vertu individuelle.
Et alors ça ressemble à quoi la vie d'un Ben Noir ?
Alors la vie d'un Ben Noir, par définition, disons, c'est singulier. Puisqu'il n'y a pas de, il s'agit pas d'une religion, il s'agit pas de quoi que ce soit. Donc c'est toujours un engagement singulier, personnel, particulier. Et donc je crois que ça ressemble à pas grand chose de définissable. C'est-à-dire que je peux décrire la mienne, je peux pas décrire la vie d'un Ben Noir en général. La mienne, ça veut dire bah, quelqu'un qui depuis maintenant 30 ans, 40 ans, fréquente assidûment des amis juifs avec lesquels il étudie. La synagogue, les textes juifs, le Kodesh que j'ai appris après ma rencontre avec Benny Lévy, et voilà, dont l'existence est rythmée en partie, en grande partie, par la lecture d'un certain nombre de textes hébraïques, pour dire simplement.
C'est quand même un statut très particulier. Ben Noir, ce n'est pas simplement l'humanité non-juive, puisque ça impliquerait 99,99% de l'humanité. C'est quelque chose sur une ligne de crête.
C'est ça. L'autre nom qu'on pourrait utiliser, l'autre expression talmudique, ce serait celle de Ger Toshav, étranger résident. On trouve ça dans le Rambam, dans le Mishneh Torah, chez Maïmonide, qui fait une sorte de distinction. Bon, il essaie d'expliquer ce que serait cet étranger résident, c'est-à-dire donc celui qui, sans être juif, pourtant résiderait dans une grande proximité, disons, ou même au sein, puisque résident. Mais tout en restant étranger, c'est le statut, hein, c'est quelqu'un qui réside avec Israël mais qui reste étranger. Et d'ailleurs, cette étrangeté, elle se dit de façon, puisque étranger à Israël au sens où il n'est pas encore, où il n'est pas, tout simplement, juif, donc il n'a pas fait Guéroute. Et en même temps, étranger, du coup, par sa proximité avec Israël, étranger aussi à sa propre nation. Donc c'est un double statut d'étrangeté.
Vous êtes étranger des deux côtés.
Voilà, c'est ça. Étranger absolument.
Vous avez prononcé le mot à l'instant de Guéroute. On sent une très grande familiarité chez vous avec l'univers juif, avec les textes juifs, avec la langue aussi hébraïque. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait Guéroute ?
Eh ben, alors, c'est toute l'histoire de ma vie. Enfin, j'ai rencontré le judaïsme à travers la personne de Benny Lévy, par la philosophie d'abord. Benny Lévy, c'était mon prof de philosophie. J'étais étudiant en lettres il y a fort longtemps et j'ai découvert la philosophie avec lui. Bon, j'ai découvert la philosophie et très vite... Je suis resté très longtemps dans les cours de Benny Lévy parce que j'étais vraiment happé par quelque chose. Et très vite, j'ai senti, sans savoir le formuler encore exactement, que dans sa pratique de la philosophie, il y avait un arrière-plan. Un arrière-plan qui faisait que ce professeur lisait les textes de philosophie comme jamais personne ne l'avait fait devant moi, en tout cas, avec une espèce de vivacité, une espèce de vie... qui n'est pas si fréquente que ça dans les milieux universitaires, pour dire la vérité. Voilà. Et j'ai très vite compris, bon, quelques années malgré tout, enfin j'ai très vite compris que effectivement c'était sa pratique de l'étude juive qui était aussi en jeu et qui faisait écho à sa manière de philosopher. Et de ce fait, j'ai commencé à lui poser des questions là-dessus. Je raconterai plus en détail s'il faut, mais voilà, j'ai commencé à lui poser des questions là-dessus. Il m'a orienté vers un certain nombre de textes. Et puis j'ai compris assez rapidement que si je voulais avoir vraiment accès à ces textes, il fallait apprendre l'hébreu. Bon, donc j'ai appris le Kodesh. Bon, ça prend quelques années quand même. Ça m'a pris un peu de temps. Et ensuite, j'ai découvert, au bout d'un certain temps, durant lequel j'étais l'élève de Benny Lévy, j'ai découvert qu'il faisait à côté de la fac. C'était Jussieu à l'époque, Paris 7, ce qui est Denis Diderot aujourd'hui, qu'il donnait, les jours où il était à Paris, parce qu'il vivait à Strasbourg encore à ce moment-là, il donnait un cours pour les Bnei Noir, précisément. C'est-à-dire, alors évidemment, l'idée, c'était que il donnait ce cours pour ses anciens camarades gauchistes, parce que Benny Levis avait été le chef de la gauche prolétarienne dans les années 70, puis ce groupuscule maoïste s'était autodissous en 73, mais Benny avait fait donc son chemin avec Sartre en partie, mais son chemin vers le retour, comme il le dit lui-même, et donc était devenu juif orthodoxe en vérité. Et certains de ses anciens camarades, on va dire ça comme ça, en utilisant la terminologie d'époque, certains de ses anciens camarades restaient attachés à lui et à son mouvement, donc à son mouvement de pensée, à son mouvement d'existence. Et donc il proposait un cours pour ces gens-là, et un cours qui portait précisément sur les sept commandements, les sept mitzvot des Bnei Noar. Et c'était la dernière année de sa présence à Paris, avant qu'il ne fasse son alia, avant qu'il ne monte à Jérusalem. Il m'a proposé de venir à ce groupe. Donc, bon, c'était, je m'en souviens, la mitzvah en question, c'était Gezel, c'était sur le vol. Donc, on a passé un an à travailler sur cette notion avec Benny. Et c'est au cours de cet enseignement que j'ai commencé à saisir qu'il y avait cette figure peu connue, mais peu connue évidemment des goyim, c'est clair, enfin des non-juifs évidemment, mais peu connue aussi des juifs, qui est la figure du Ben Noir. Et le sentiment que j'ai eu en travaillant sur ce statut étrange, sur cette étrangeté, sur cette espèce d'homme étrange qu'est le Ben Noir, j'ai eu d'emblée le sentiment avec Benny qu'il y avait quelque chose là qui était à penser et qui pouvait parfaitement être alors je dis un peu philosophiquement, mais qui pouvait parfaitement être une position d'existence pleine, entière. Et c'est ce sillon-là que j'ai creusé depuis, disons.
C'est-à-dire que vous avez rencontré une case dans laquelle vous pouviez habiter.
Voilà, alors une case, ça enlève un peu l'étrangeté, mais oui, en tout cas un espace, un lieu, une sorte de lieu, même si c'est un lieu qui n'est pas très bien délimité, parce que précisément il y avait tout à faire, enfin, ou il y a tout à faire encore, puisqu'encore une fois, y compris quand il m'arrive de parler de ça avec des juifs, voilà, enfin très proches de la tradition, etc., la connaissance là-dessus est assez étroite, assez fine, en vérité, il n'y a pas grand-chose. Et il se trouve que j'ai eu donc, le secours de Benny pour ça. Quand Benny est parti en Israël, j'ai étudié ensuite avec le Rav Gronstein pendant quelques années, qui faisait aussi un cours pour les Bnei Noar. Les cours du Rav Gronstein s'étaient arrêtés faute de combattants. Enfin, j'étais le dernier, j'étais le seul. On s'est dit, bon, on attend de voir, puis ça n'a jamais repris.
Le Ben Noar survivant.
Voilà, le dernier des Bnei Noar. Et donc, à ce moment-là, un ami très cher, qui est Pascal Baquet, m'a appelé et m'a dit, voilà, il faut pas que tu perdes ce lien, donc il faut qu'on étudie ensemble. Ouais. Et depuis 2003, donc 21 ans, c'est mon raver, c'est mon compagnon d'études avec lequel voilà, on étudie toutes les semaines. Quoi.
Mais est-ce que vous avez considéré à ce moment-là, ou est-ce que vous continuez encore à considérer que ce statut de Ben Noir comporte, si l'on peut dire, une grandeur qu'on ne trouverait pas ou plus une fois converti au judaïsme?
Non, ça, je ne pourrais pas dire ça en termes de grandeur. Non, je ne pourrais pas dire ça. Pour moi, il y a évidemment une grandeur dans ce que Béni appelait l'être juif, dans l'existence juive, voilà, pour dire plus simplement. Il y a une grandeur qui est tout autre que celle... Mais il y a pour un homme... Il y a pour un homme une grandeur, je crois.
Un homme au sens de l'être humain.
Voilà, au sens de l'être humain, il y a, je crois, une possibilité. Alors, je ne vais pas dire ça en termes de grandeur, parce que ce ne sont pas mes mots, mais quoi, bon, ça serait très hébraïque, il y a une forme d'existence intense possible pour un humain dans ce statut ou cette case, comme on disait tout à l'heure du Ben Noir. Effectivement, il y a une possibilité d'une existence vive et intense. Voilà, pour l'humain.
On entend parfois dire que on peut étudier la Torah avec... des gens qui ne sont pas juifs, mais que le Talmud, ça serait, enfin la loi orale, ça serait réservé pour Israël. Là, c'est un démenti.
C'est-à-dire que non, ce que disent les textes pour autant que je les ai étudiés, ce que disent les textes, c'est qu'effectivement le Ben Noir ou le Goy qui s'affaire à la Torah, il est comme le grand prêtre, dit-on.
Il y a en tout cas une noblesse qui est reconnue.
Et alors, ça veut dire quoi, hein, le Ben Noir ou le Goy qui s'occupe de sa Torah, qui, chez Osek Batorah, qui s'affaire à la Torah? Évidemment, ça ne veut pas dire le Goy qui ferait comme un juif. C'est-à-dire, bien sûr que non, parce que sinon, il faut qu'il soit juif. Voilà. Ça veut dire le Goy qui s'occupe de la Torah des Bnei Noirs. Or, dans la Torah...
De la Torah qui le concerne.
Voilà, la Torah qui le concerne. Or, cette Torah, où est-ce qu'on en a les traces? Parce qu'il faut parler en termes de traces, parce qu'il n'y a pas un livre qui s'appellerait la Torah des Bnei Noirs. Ce sont des traces dans le Talmud. Et il y a dans le Talmud deux traités, essentiellement, dans lesquels il y a des passages décisifs sur cette question. C'est Sanhédrin et Avodah Zarah. Donc, le Ben Noir est tout à fait habilité à travailler ces traités talmudiques. Un Ben Noir peut aussi, par-delà les Sheva Mitzvot, les sept Mitzvot, peut prendre sur lui tout un tas de Mitzvot.
Est-ce que c'est votre cas?
C'est mon cas pour certains. Oui, c'est mon cas pour le jeûne, pour des choses comme ça, oui.
Pour respecter les jours de jeûne.
Je jeûne à Kippour, je jeûne pour le jeûne d'Esther, oui. Non, en tout cas, cela, voilà.
Et dans les commandements, on va dire, du quotidien, je sais pas, la cacheroute.
Non, la cacheroute, ça, la cacheroute.
Ça existe dans votre quotidien.
Il n'y a pas de prescription de cacheroute pour un Ben Noir. Alors, je pourrais, mais non. En l'occurrence, c'est pas le cas.
Vous mettez pas votre téfiline tous les matins?
Non. Non. Ça, par contre, non. Par contre, il peut prendre sur lui un certain nombre de mitzvot, mais il y en a qui peut pas prendre. Et les téfilines en font partie. Shabbat.
Ça, c'est réservé aux convertis.
Ça, c'est le guerre tzedek pour le coup. Donc le converti. Non, Shabbat et Tfilin, les principaux Hukim en fait sont interdits. En tout cas, le Ben Noir ne peut pas décider de les prendre sur lui. Tout le reste, oui.
On va dire des éléments de la Torah qui singularisent le rapport entre Israël et Dieu.
Ouais.
Ceux-là sont réservés aux Juifs.
Là, ce sont des mitzvot qui sont réservés, enfin, en tout cas, qui concernent le Juif, qui ne concernent pas le Ben Noir.
Oui. Et ça génère pas un peu de frustration chez vous?
Non, il n'y a pas de frustration. Il peut y avoir parfois Non, je crois qu'il y a suffisamment d'intensité. Vraiment, c'est comme ça que je le vis. C'est une question qu'on me pose souvent et que je me suis souvent posée. Évidemment aussi, la question de la guéroute, bien sûr. Mais je pense que j'ai une intensité suffisante. Je suis très curieux de voir tout un tas de choses, évidemment. Ça m'intéresse beaucoup. Mais sans que ça soit vécu comme une frustration, parce que c'était votre mot.
Est-ce que Benny Lévy vous incitait à sauter le pas?
Non. Non. Benny, alors bon, il avait, en fait, il incitait pas du tout en parole, il incitait par l'intensité de sa vie juive. Ça, oui, bien sûr, c'était très frappant. C'était quelqu'un qui était très... Oui, qui avait une densité incroyable d'existence, qui était en plus extrêmement drôle, extrêmement chaleureux avec ses élèves, vraiment. Enfin, c'était quelqu'un de voilà, moi j'ai eu, avec le temps, disons, une proximité de plus en plus grande avec lui, et c'était vraiment quelqu'un qui rayonnait, voilà, vraiment quelqu'un qui rayonnait. Donc, il y avait une sorte de désir qui pouvait se développer de ce point de vue-là, parce qu'on voyait un grand maître, on disait oui, il y a quelque chose. On a parlé avec lui de la guéroute à un moment donné. Il m'a dit ce qu'il a dit, on a un beau témoignage dans le livre de Pascal Baquet, le père de Gabriel. Il m'a dit exactement la même chose que Pascal raconte dans son livre. C'est-à-dire, il m'a dit, si tu fais guéroute, alors sache que ton père sera plus ton père, ta mère sera plus ta mère. Bon, c'est un enseignement du Talmud, puisque les guérim tzadikim, les convertis, sont fils d'Abraham et de Sarah.
Et c'est ça qui vous a dissuadé?
Non. Non, mais je m'en souviens, parce qu'il me l'a dit avec son air profond, regardant bien au fond des yeux. Non, ça, c'est pas ça qui... Parce que, bon, évidemment, c'est un enseignement, ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de relation avec les parents. Ça n'est pas...
Vous vous êtes mis à l'écoute de vous-même, en fait. Il n'y avait pas ce désir impérieux.
Il n'y avait pas ce désir impérieux.
Vous avez employé une formule interpellante tout à l'heure. Vous avez dit que vous êtes étranger des deux côtés. Du côté de votre côté non-juif, comment est-ce que les gens ont réagi ou comment ils continuent à réagir? C'est-à-dire qu'ils rencontrent quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui est presque juif.
Ouais.
Qu'est-ce que ça suscite comme réaction?
Alors, il y a plusieurs niveaux. Bon, quand mes parents étaient encore là, ils sont morts tous les deux, mais quand ils étaient encore là, il y a pu y avoir un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai, ça s'est mis à occuper énormément de place dans mon existence. Bon, par exemple, mon père, quand il a su qu'il allait mourir, m'a demandé si je viendrais à son enterrement.
Parce qu'il
se faisait enterrer à l'église. j'ai pour habitude de ne pas entrer dans les églises.
Ah oui. Voilà.
Donc,
pourquoi?
Parce que, bon, c'est une question par rapport à la mitzvah sur l'idolâtrie. Toute la question étant de savoir si le christianisme peut être décrit comme une idolâtrie, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des maîtres. Mais bon...
Mais vous avez quand même tranché que voilà, c'est suffisamment
pour moi, de l'idolâtrie. En tout cas, c'est une sorte de... Voilà, c'est une sorte de bon, là, c'est pas une mitzvah, pour le coup. Enfin, même si je peux le rattacher à la mitzvah de l'idolâtrie, mais c'est une sorte de barrière, voilà, que je mets, moi. Donc, voilà, mon père me demandait si j'y allais. Bon, j'y suis allé. Bon, c'était mon père. Je lui ai dit, écoute, on verra, machin. Et puis, j'ai appris qu'il s'occupait il était psychiatre, mon père, il était spécialiste du deuil et de la mort. Et il s'occupait donc de beaucoup de choses autour des endeuillés, autour de... Bon. Et il avait des relations avec un rabbin qui donc m'a dit qu'il viendrait à l'enterrement de mon père.
Le rabbin?
Ouais. Donc je me suis dit, bon, allez, il y va. Donc, c'est mon père, donc j'y vais. Et c'était drôle, bon, drôle, si on peut dire. C'était drôle quand même parce que lorsque je suis entré dans cette église, c'est sur l'île Saint-Louis, à Paris. Et là... Le nom de HM est gravé dans la pierre en lettres hébraïques au-dessus du... C'est un truc de fou, c'est vraiment... C'était très surprenant, très très... Alors, depuis, j'ai appris que c'était le cas dans plusieurs églises, parce que je savais
le
pas...
Le tétragramme.
Moi, jamais, mais le tétragramme en lettres hébraïques...
Ouais. Donc ça vous poursuivait d'une certaine manière.
Ah, ça me poursuivait, oui, c'est moins qu'on puisse dire.
C'est émouvant, en tout cas, d'entendre que votre père était inquiet.
Était inquiet.
Ouais. Que son fils
ne vienne
pas.
Réactions, c'est ça, on parlait des réactions des gens. Alors là, c'était l'inquiétude sur ce point-là, parce que voilà, bon, il savait qu'il allait mourir. Mais après, pour le reste, puisque là, j'ai parlé de mes parents, mais pour le reste des gens, parce qu'effectivement, les gens autour de moi savent plus ou moins. Mais alors, il est très fréquent, c'est une erreur très fréquente. Il y a plein de gens qui pensent que je suis juif, en vérité.
Alors, j'allais
y venir. Y compris chez les juifs, d'ailleurs. J'entends régulièrement des gens dire « Ah, voilà, vous êtes convertis et tout ». Alors, je m'efforce autant que possible. À chaque fois que je prends la parole, je m'efforce de dire que je ne le suis pas. Parce que je ne veux pas d'imposture là-dessus. Il n'y a aucune imposture à avoir. Et il faut faire entendre, je crois. Enfin, en tout cas, moi, ça me tient à cœur de faire entendre qu'on peut parfaitement faire une conférence sur des textes juifs, les connaître en hébreu, les commenter, tout en n'étant pas juif. Voilà.
Enfin, vous faites exister ce statut de ben
noir.
Voilà, et avec les 40 ans de compagnonnage du peuple juif, mais aussi de ses textes, quel... compréhension, quelle intuition profonde vous avez du pourquoi de la haine anti-juive?
Fondamentalement, je crois qu'il y a une sorte d'incompréhension et donc de refus, finalement, voilà, en tout cas, ouais, de raidissement, face à l'espèce de caractère inouï, unique, de ce qui se joue dans le judaïsme. Je crois qu'il y a vraiment une espèce de mise à distance. En gros, la religion, bon, en général, se réduit à un culte. Non, je veux dire, les religions, hein, là, je parle de façon générale, pas le judaïsme, à un culte, donc à une certaine forme d'obéissance, plus ou moins, et puis à un certain nombre de croyances. Bon. Soit ça se fait sans aucun rapport au texte, c'est le cas... dans une très grande partie du christianisme, surtout chez les catholiques. Enfin, là, je peux témoigner de mon enfance, les textes ne jouent absolument aucun rôle. Absolument aucun rôle. On est dans un système de croyances qu'on pourrait parfaitement déployer sans se référer au texte, jamais. Bon, même si, évidemment, les grands s'y réfèrent, bien entendu. Mais enfin, bon, je parle ici de la pratique courante. Donc, soit on a ça, soit on a une espèce d'obédience absolue à un texte. Ça, c'est ce que je vois chez mes jeunes élèves musulmans, par exemple. Une obédience absolue, parce que j'en ai beaucoup, bien entendu, à un texte qui n'est jamais interrogé. Dans toutes ces pratiques, il n'y a pas ce qu'on trouve dans le judaïsme, c'est-à-dire quelque chose qui relie, enfin c'est très difficile à décrire d'extérieur, mais enfin quelque chose qui relie une pratique, une étude, et puis une vie, une existence, tout simplement. C'est-à-dire une sorte d'engagement dans une étude qui a des répercussions permanentes sur l'existence. Ça n'existe pas ailleurs, je crois, en tout cas, et c'est relativement incompréhensible.
Et ça gratte.
Ça gratte, exactement, ouais, je pense. Sans oublier non plus qu'effectivement, les deux religions dont je viens de parler, ben, finalement, sont malgré tout des surjons du judaïsme, même si elles se vivent comme ça en partie, même si évidemment, parfois, c'est dans l'opposition que ça s'opère, mais quand même.
Vous avez trois enfants, Gilanus, qui portent des noms bibliques. Est-ce que le ben-noachisme, c'est quelque chose qui peut se perpétuer, qui est transmissible?
une bonne question. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est toujours une aventure singulière. Donc, c'est effectivement là un des points de grande différence avec le judaïsme, pour le coup. C'est que, comme c'est une aventure singulière, ça veut dire qu'il y a, et comme c'est une aventure qui n'a pas un contenu positif aussi développé que le judaïsme, précisément, ça n'est pas quelque chose qui se transmettrait dans le quotidien de l'existence, effectivement, par des actes, par des manières de faire. Donc, c'est une vraie question.
C'est le destin d'un individu.
C'est un individu.
Il n'y a pas de peuple. C'est un individu. Alors,
évidemment, non, à côté de ça, évidemment, le fait que depuis toujours, mes enfants me voient aller à la choule 3 fois par semaine, aller, etc., étudier, passer ma vie à lire des textes, etc., vraisemblablement, quelque chose se transmet, mais par ses voies indirectes, disons.
Par irradiation, en fait, voilà. Par radiation. Ouais. C'est-à-dire que vous ne posez pas positivement en disant « mon fils, ma fille, j'aimerais que… »
Ouais, non. Alors par contre, je parle de ce que je fais, je parle des textes, je parle, etc. Ça, oui, mais
c'est ça la différence avec quelqu'un qui se serait vraiment converti au judaïsme.
C'est une différence notable.
C'est que votre démarche s'arrête théoriquement à vous-même.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut revenir un moment justement sur ce bain dans lequel vous avez grandi ? Vous dites que c'était vaguement chrétien ?
Oui, alors mes parents étaient catholiques de culture, on va dire. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Oui, culturellement, voilà. Mon père, je l'ai appris plus tard, mais mon père avait voulu devenir prêtre, semble-t-il, jeune. Et puis, si j'ai bien compris, il a rencontré ma mère à ce moment-là. Donc bon, voilà, ça... C'est un problème, évidemment, dans le catholicisme. Donc, voilà. Il s'est marié. Et ma mère, qui était... c'est pour ça que je disais que c'était étrange. Ma mère était jusqu'en 81 ou 82, militante communiste. Mais quand j'étais gosse, quand j'étais petit, elle faisait parfois, en remplacement des dames catéchèses, le catéchisme pour des jeunes gens de la banlieue dans laquelle j'habitais. Donc, voilà, un truc assez étrange. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de culture catholique. Bon, il y avait Noël, il y avait machin, etc. J'ai fait ma première communion, ce genre de choses. J'allais au catéchisme. Mais c'est pareil, j'allais au catéchisme.
Les tendances marxistes.
Mais voilà, à la maison, c'était... Parce que mes parents étaient séparés d'emblée, enfin, quasiment dès ma naissance. Ah. Donc, on a grandi avec ma mère, qui était militante communiste. Donc, effectivement, il y avait cette espèce d'étrangeté. J'ai assisté, quand j'étais enfant, effectivement, un certain nombre... J'ai arrêté assez vite, mais précisément, je veux expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait un espèce de manque de substance qui était absolument... que je ressentais là pour le coup, alors là vraiment sans
enfant déjà,
que je ressentais. J'ai voulu lire les textes tout de suite. Je leur ai demandé, ils m'ont donné une Bible illustrée. Mais alors c'était, enfin je sais pas comment dire ça, je vais le dire avec mes mots d'aujourd'hui, c'était une sorte de bande dessinée de mauvaise qualité, quoi, on va dire ça. Et je me suis toujours dit, mais tant qu'à lire ça, autant lire pour de vrai. Enfin, je veux dire, prendre le texte et puis le lire. Alors, j'ai pas tout lu parce que j'étais gamin. Alors, je devais avoir 8 ans, 9 ans, je sais pas. Donc, mais j'ai toujours été surpris par cette absence des textes. C'est-à-dire quelque chose, finalement, dont on parle constamment, mais qui n'est jamais là. Et ça m'a vraiment frappé. Et c'est vrai que je me suis dit, si c'est simplement un enseignement de type moral, bah, après tout, les principes moraux de ma mère me suffisent amplement. Voilà, elle était très à cheval sur un certain nombre de choses qu'il fallait faire, qu'il ne fallait pas faire, non pas de façon directive, mais enfin de façon affirmée. Telle chose on fait, humilier quelqu'un jamais, enfin voilà, ce genre de choses. Ça me suffisait, je n'avais pas besoin de... Je veux dire, si c'est ça la religion catholique, je n'avais pas besoin de plus.
Vous avez évoqué, bien sûr, Béni Lévy, Pascal Baquet, il y a aussi le fils de Béni Lévy, René Lévy, qui a peut-être joué un rôle dans votre trajectoire.
Oui. Alors René, donc le fils aîné de Béni Lévy, je l'ai rencontré, bon, je l'avais vu à Strasbourg, je l'avais croisé, disons, quand Béni était vivant, parce que j'étais allé il y a très longtemps voir Béni à Strasbourg encore, donc, quand j'étais son étudiant ici à Paris. Et j'avais croisé René, mais comme ça, sans plus, et puis il se trouve qu'on s'est rapproché beaucoup au moment de la mort de son père. Et c'est avec lui qu'on a pris la décision de ramener l'Institut en fait à Paris. Donc depuis, c'est lui qui dirige l'Institut, moi je dirige les cahiers, donc disons, je pourrais dire qu'on co-dirige l'Institut, enfin sans exagérer. Et donc on a une très grande proximité. Il se trouve qu'effectivement, René, un très grand talmudiste, donne des cours, notamment sur les Pirkei Avot, depuis plusieurs années. Et donc j'ai assisté pendant 2 ou 3 ans, je pense, 3 ans, à son enseignement sur les Pirkei Avot. Ce que j'en ai tiré, enfin, ou ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, il y a là une manière de rigueur assez incroyable et qui concerne ce dont on a parlé ou ce dont on parle, c'est-à-dire le noirisme. Parce que René est quelqu'un qui approfondit énormément les textes, quelqu'un d'une rigueur comme ça immense, qui passe sa vie à étudier et qui est très soucieux de la façon dont on peut rendre ce qu'on lit dans ces textes dans un français qui ne soit pas un français de tous les jours, qui ne soit pas le français écorché de notre existence quotidienne, enfin, qui est très pratique par ailleurs, mais souvent écorché. Et donc, René a une espèce d'attention à la langue absolument incroyable, donc, ce qui l'amène parfois à des choses très amusantes, à ressortir un mot du XVIIe siècle dans son usage. Mais avec, voilà, ce qui m'importe, c'est ça, c'est cette espèce d'attention que René a au fait que ce qu'il étudie dans le Talmud ou dans la Torah soit parfaitement audible en langue française. Et ça dit aussi quelque chose du rapport d'un juif à une langue qui n'est pas la langue de l'étude, qui n'est pas, et donc aussi à des gens qui ne sont pas eux-mêmes juifs. Voilà.
Et de la place d'Israël dans le monde.
Si on en croit le geste de René, il y a dans l'étude et dans l'étude juive intense une possibilité aussi de revivifier, de réactiver quelque chose qui a tendance à se perdre dans le français.
Comment est-ce que vous êtes allé en Israël pour la première fois ?
La première fois que je suis allé en Israël, en fait, c'était en été. C'était pour voir Béni, qui s'était installé. Et on est venu avec ma femme, on est venu de Chypre. On était à Chypre, en vacances, et on a pris le bateau. On est arrivé par mer en Israël, c'était incroyable.
À l'ancienne,
c'était absolument incroyable. Et on retrouvait là une amie, Myriam, qui était là-bas, qui passait du temps là-bas à ce moment-là. Et ensuite, tous les trois, on a fait un petit séjour comme ça, et pendant lequel on est allé voir Béni. Ça, c'était la première rencontre.
Et vous vous sentiez un peu chez vous ou...
Oh ouais, enfin, on se sentait très bien. On est resté essentiellement à Yerushalayim, mais en fait, non, on a fait un petit tour, bon, à Engedi, enfin, voilà, le tour classique, la mer morte, voilà. Non, c'était tout à fait plaisant. On était à Beersheba aussi. Beersheba, par exemple, alors c'est bon, très différent, évidemment, mais on logeait dans un hôtel et on avait été frappé parce que, avec ma femme, on a pas mal fréquenté la Russie quand on était jeune. Elle parle russe parfaitement, elle a travaillé en Russie plusieurs fois. Et moi, j'y suis allé, donc, l'accompagnant, voilà. On était frappé à Beersheba, c'était que des Russes à l'époque. Et il y avait notamment la femme qui nous accueillait dans l'hôtel où on a dormi, qui était russe, bon, qui très vite s'est mise à parler russe avec ma femme, hein, et qui nous disait, et c'était très touchant, hein, en même temps, c'était l'histoire d'Israël, quoi, voilà. Elle nous disait, mais vous vous rendez compte, j'habitais à Saint-Pétersbourg, j'habitais dans une des plus grandes villes de culture du monde, et me voilà dans ce trou. Mais bon, elle le disait, malgré tout, avec un grand sourire et contente d'être là. Donc c'était le paradoxe de...
C'est quelque chose que tout le monde a un peu vécu.
Voilà, c'est ça.
Le propre d'Israël, c'est qu'on s'y sent étranger dans un pays où tout le monde est étranger.
C'est ça, ouais.
Vu votre situation, ça vous convenait très bien.
Alors après, évidemment, il y a forcément aussi des choses qui sont dures dans la société israélienne. Voilà, on les voit aussi. Mais c'est vrai que moi, la première impression, et à Yerushalayim, en particulier à Jérusalem, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui parlent toutes les langues du monde.
Vous venez de prononcer une phrase qui a une portée un peu messianique. Hein, toutes les langues du monde, il y a quelque chose autour de Jérusalem où affluent tous les peuples. Et puis vous avez énormément travaillé, pas seulement sur Lévinas, mais aussi sur Rosenzweig. Sur Scholem, sur tous ces penseurs, sur Walter Benjamin, chez qui la dimension messianique a quand même beaucoup a fait l'objet de beaucoup de recherches et de travaux et qui ont produit beaucoup de pensées autour de ça. Ce serait quoi la quintessence du messianisme ?
Ce qu'on peut dire éventuellement à partir d'un certain nombre de textes, c'est que effectivement quelque chose de ce qui s'est mettons perdu à Babel. Se retrouvera, disons quelque chose comme ça. Safa Arat de Babel.
Qui est, une seule langue.
Voilà, Safa Beruchra, une langue pure, dans les textes de Zerachia, notamment de Zacharie.
On dit que ce qui s'est perdu à Babel, c'est une langue
non,
pure.
Non, mais on dit qu'à la fin, l'humanité sera une et aura une langue pure. et c'est Safa. Donc il y a des commentateurs qui mettent en relation évidemment avec la Safa Arat qui a été perdue.
La langue unique,
voilà, à laquelle j'avais consacré mon dernier bouquin, la langue unique qui se serait perdue à Babel. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que cette langue unique ? C'est un sujet en soi, c'est passionnant, mais quelque chose comme
ça. Oui, c'est pas le globish.
Non, c'est clairement pas le globish, c'est clairement pas l'espéranto. Et en fait, c'est vraisemblablement pas un idiome. Mais bon, c'est quelque chose qui permettait, alors c'est, là ce sont les textes sur Babel, quelque chose qui permettait, alors Rachidi, c'était la langue sainte, bon, alors...
Ça dit rien.
Est-ce qu'il faut entendre que c'est l'hébreu ? Voilà, c'est ça, est-ce qu'il faut entendre que c'est l'hébreu ou pas ? Mais c'est pas sûr que ce soit l'hébreu en vérité, parce que dans le Talmud on dit que Adam il parlait araméen, donc bon, on sait pas très bien quelle serait cette langue. Donc il dit que c'est la langue sainte, et puis Ibn Ezra dit quelque chose de plus... Alors ça n'aide pas forcément à comprendre absolument la chose, mais il dit quelque chose de très fort là-dessus. Il dit qu'en fait cette langue, c'était une langue qui permettait à tous les hommes, quel qu'ait été par ailleurs leur idiome, de se comprendre, puisqu'il y avait déjà 70 langues en vérité, on dit... au chapitre 10, juste le chapitre d'avant dans la Torah, que les Bnei Noir avaient chacun leur propre lachon. Alors, ce n'est pas Safa cette fois-ci, mais enfin, avaient chacun sa propre langue. Donc, Ibn Ezra dit, voilà, c'est une langue qui permettait aux gens de se comprendre quelle qu'était par ailleurs leur langue. Et, plus encore, c'est une langue qui permettait aux plus sages et aux plus ignorants de se comprendre parfaitement.
Donc, au-delà d'un idiome, c'est peut-être un parler, en fait.
C'est ça, hein, une sorte de parler qui donc, je sais pas, pour dire mal, mais avec des termes géopolitiques, transnational, disons, mais aussi qui aurait transcendé les barrières de culture, les barrières sociales, d'une certaine façon, parce que c'est ça, du plus érudit au plus ignorant. C'est vrai que généralement, même si on parle la même langue, par exemple en France, on ne se comprend pas. L'espèce de hiatus, enfin là, en langage vraiment politique, entre les élites et puis le peuple, mettons, voilà. Mais là, c'est quelque chose... Donc effectivement, cette langue-là, c'est sûr que ce n'est pas un idiome. C'est quelque chose comme une... Alors, c'est quelque chose comme une unité de l'humanité, voilà, qui était visée par les hommes de la Tour de Babel, qui n'a pas abouti, mais cette visée, d'après les textes, elle n'était pas mauvaise aux yeux, si on peut dire ça comme ça, de Dieu. Hein, ce qui était mauvais, c'est la manière dont cette visée s'est accomplie. Ça, oui, c'est-à-dire la construction de la tour et puis le mépris de plus en plus fort pour la vie des hommes qui la construisaient. Ça, c'est du point de vue du Midrash. Parce qu'on raconte que la tour montant, bah, les gens montaient les briques et puis mouraient. Et puis, mais c'est pas grave, il fallait que la tour monte. Voilà,
hein. C'est du jetable.
Voilà, c'est du jetable, c'est ça. L'humanité, alors que c'était une volonté de réaliser une humanité, ça s'est transformé en voilà, une sorte d'institutionnalisation de quelque chose au mépris de...
Ça s'est renversé dans son contraire, en fait.
Dans son contraire, exactement. C'était un projet de civilisation qui s'est complètement affaissé.
Et dans ce projet humain, au final, il sera peut-être constitué de juifs, de non-juifs et de bennes noires, qui sont peut-être la glue dans tout ce
puzzle. Alors, c'est la question, voilà. Est-ce que, en tout cas, il y aurait, à l'époque messianique, d'abord... la possibilité pour les juifs d'étudier en paix, ça c'est la première chose, ce que dit Rambam, sans l'oppression des nations, du monde, donc c'est très bien. Donc le fait d'être délivré du joug politique ou impérial, des empires, impérial au sens des empires talmudiques, et puis une modification, si on en croit les textes, prophétiques qui parlent très allusivement de cela, une modification effectivement de la relation d'Israël et des hommes qui ne sont pas d'Israël.
Merci Julianus.
Presque juif, une production Academ. Conception et présentation, Ruben Onigman. Prise de son et montage, Isaac Payon.